Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le DC Podcasters News numéro 52. Il ne sera pas question de Batman 50, mais bien des tourments de Doomsday Clock et des précisions sur le film du Joker avec Jared Leto. Je suis Watchful et vous êtes bien ici pour le DC Podcasters numéro 52. L'équipe de ce podcast est constituée de June Thunder.
Bonsoir, bonsoir à tous.
De Mocassin.
Salut.
Et de l'habituel Sledgy.
Salut.
Sans oublier l'invité qu'on n'oublie jamais, Clegan.
Salut. Jamais on m'oublie.
Jamais, même pas dans les articles. Donc jamais. J'imagine que tout va bien pour tout le monde. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, il fait même peut-être trop chaud. Et on va commencer avec les news VO. L'actualité de Doomsday Clock, l'événement de Geoff Jones et Gary Frank, qui perd le monopole des personnages qui ont fait l'objet d'un teaser conséquent et continu vis-à-vis de l'événement, c'est-à-dire de la Légion des super-héros, de Shazam et j'ai perdu le nom.
La GSA.
De la GSA et donc qui peut être maintenant utilisé par n'importe quel artiste pour n'importe quel projet. Doomsday Clock, qui suit régulièrement le titre?
Moi.
Parfait. Donc on va laisser Clegane pour commencer, puisque c'est un peu l'invité quand même. Parle-nous de Doomsday Clock et est-ce qu'il y a, une réelle importance à conserver le monopole de Doomsday Clock?
Alors, pour parler de Doomsday Clock, bon, j'ai pas trop besoin de dire sur le scénario, c'est Watchmen, c'est DC, voilà, vous savez, essayer de spoiler plus. Mais bah, je peux dire que c'est quand même très bien, à mon avis, pour l'instant. Même si le rythme de parution est beaucoup trop lent. Mais bon, moi, c'est de la qualité. Et donc, est-ce que la GSA, la Légion et Shazam est important? Ouais, c'est ça. Est important pour l'histoire? Pour l'instant, c'est pas trop.
Un peu quand même. Surtout la Légion et la GSA qui revient en force, là.
Ouais, pour l'instant, mais on a pas vu tant que ça, donc on sait pas vraiment s'ils auront un impact vraiment déterminant sur l'histoire. Mais si Geoff Jones avait bloqué ses persos, c'est qu'il avait quelque chose à faire, et c'est que bah, il y avait une raison. Je pense pas qu'il ait fait ça juste pour le plaisir.
Mais sachant tout le retard que le titre accumule, enfin le retard, entre guillemets, Gary Frank peine à suivre le rythme, mais il le suit malgré tout, on va dire. Est-ce que ce serait en rapport, à mon avis c'est cumulé, la perte de poste du directeur artistique de Geoff Jones, en plus du retard et de l'attente qui arrive à saturation de revoir ces personnages-là?
Mais après, ça se trouve, Geoff Jones était d'accord avec ça. Hein. Enfin, on ne sait pas ça, si c'était contre son gré ou s'il était d'accord avec cette décision.
Bah pour moi, il y a deux solutions. Soit il était d'accord, soit ça veut dire que DC a décidé que Doomsday Clock, ils avaient plus vraiment envie de prendre ça comme un récit qui va fonder l'avenir du DCU.
Vive Snyder.
Voilà.
T'as tout compris, DC... toi?
Bah, c'est une possibilité. Ça m'attristerait un peu en soi, mais c'est une possibilité. J'espère que non, mais voilà.
Il faut dire qu'il peut quand même y penser. Beaucoup de temps quand même pour faire Doomsday Clock, et que c'est vrai que ça, c'est pour faire des plans, ça prend trop de retard par rapport aux plans qu'avait DC pour faire de nouvelles séries sur les personnages là, quoi. Donc si tout, si ils sont obligés de tout décaler à chaque fois à cause d'un artiste qui prend son temps, ce que je respecte tout à fait, mais bon, enfin voilà, il y a trop de responsabilités derrière, donc vaut mieux qu'ils libèrent les personnages. Et puis si ça se trouve, ce sera surtout pour des trucs comme tout ce qui est sur le Black Label, tout ça, je sais
pas. Ouais, les labels extérieurs.
Mais... Là, on peut pas priver les autres artistes, les autres créatifs de personnages s'ils ont envie de travailler dessus, quoi.
C'est vrai, comme ça, on peut avoir la Légion dans la GL de Snyder, ça va être bien.
Alors, bon, mais d'un autre côté, est-ce que Doomsday Clock se devait de monopoliser les personnages pour un retour en fanfare?
Oui, parce que c'était la promesse du numéro qu'il a sorti en 2016.
Non, mais c'est une promesse, mais est-ce qu'on pouvait pas avoir des projets externes à l'univers DC à côté? Pourquoi conserver absolument ces personnages-là pour la continuité?
Parce que ça fait partie de l'histoire qu'ils vont raconter.
Mais non, mais... Dans un label extérieur, par exemple, pour un graphic novel, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces personnages-là?
Ah, personne n'a dit qu'il pouvait pas.
Bah si, justement, c'est un monopole.
Bah, moi j'ai compris que c'était le monopole dans la continuité,
Ah
tu
non, non,
vois.
non, c'est un monopole total sur l'utilisation, la simple utilisation, la simple apparition des personnages.
Ah, moi j'ai compris comme vocal, c'est qu'une continuité. Dans ce sens-là, ouais, c'est un peu idiot parce que peut-être que personne n'avait envie de les utiliser dans la continuité aussi, on sait pas.
C'est comme ça que je le comprends, c'est que ce monopole perdu va peut-être pouvoir être conservé pour la continuité, mais pas pour les labels extérieurs. Je
Ah,
vois pas
c'est
ça
juste
comme
ça,
une
alors c'est bien.
apparition. Ils vont pas faire un coup de pute comme ça.
Moi, ça m'étonnerait pas tant que ça, mais si c'est dans ce sens-là, ouais, c'est pas grave.
Après, on pouvait se demander du coup si Doomsday Clock, ça serait bien dans la continuité principale avec cette information-là. Mais Jones a confirmé il y a pas longtemps que oui, ça se passait bien un an dans le futur et que c'était bien vraiment la continuité qu'on suit avec les titres actuels. Donc personnellement, ça m'a rassuré parce que l'annonce, ça m'a fait mal vu que je suis un grand fan de Doomsday Clock. Mais finalement, je pense que les plans de Jones sont à peu près intacts.
Non, mais à mon avis, ils sont intacts, mais disons qu'en termes de comment dire, pas de rebondissement, mais
Retomber.
de retombée, voilà, ce sera pas aussi, peut-être pas aussi fort qu'on l'attendait, et c'est peut-être l'effet de douche froide qui pourrait être craint plus tôt. Si plus personne n'a de réaction par rapport à Doomsday Clock?
C'est bon.
C'est génial, il faut le lire, voilà.
D'accord.
Oui, c'est vrai.
Donc on va passer à la suite avec le changement d'équipe créative qui pouvait être plus ou moins attendu pour Detective Comics. Après l'arc avec Black Lightning, il s'agira d'une nouvelle équipe créative composée de James Robinson et Stephen Segovia, qui développera une histoire orientée sur un meurtre dont la résolution sera empêchée par Double Face et compagnie. C'est un plot assez simple qui rappelle un petit peu l'aspect détective que James Robinson a déjà pu développer dans d'anciens récits du titre Detective Comics avant les New 52. Comment est-ce que vous le ressentez? Je sais qu'il y en a certains qui vont être assez salés, parce que James Robinson actuellement sur Wonder Woman, c'est pas vraiment ça. Mais Stephen Segovia, je trouve ça vraiment très bon et ça m'intéresse. Enfin, je suis content de le revoir sur Batman. Au hasard, mocassin.
Merde. J'ai pas tellement d'avis là-dessus. Après, c'est vrai, comme tu dis, Robinson, en ce moment, il est pas brillant, hein, clairement pas. Donc, ça peut laisser craindre, mais après, je pense pas non plus qu'il fera un passage très très long, en fait. Vu qu'il est déjà sur Wonder Woman et qu'il a l'air de s'y installer vraiment bien. Je pense que sur Detective Comics, ça va rester assez bref et au pire, bah, si c'est mauvais, on attendra le prochain auteur. Voilà.
Je sais pas, Sledgy.
Moi, ouais, James Robinson, c'est vrai que récemment c'était pas terrible, mais j'ai déjà lu des comics de lui qui étaient très très bien, que ce soit avec la GSA ou avec même son récemment, enfin récemment, le Earth 2, c'était lui, non, au début, avant que ce soit Tom Taylor, ouais, c'était pas mal aussi. Donc c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire des trucs plutôt cool, surtout avec Batman. Parce que son passage sur Detective Comics était plutôt sympa. Et du coup, je suis assez curieux, je suis même plus hypé par sa venue que je l'étais pour celle de Brian Hill. Même si bon, il s'en sort plutôt bien, là, le premier numéro qui était sorti était plutôt pas mal. Donc c'est vrai que le dessinateur est tout de suite beaucoup plus intéressant quand même à voir sur cet univers. Et du coup, moi, je suis plutôt intéressé, quoi.
Il n'y a personne d'un peu plus enthousiaste, j'ai l'impression d'être le seul à vraiment aimer James Robinson, mais c'est pas grave.
Mais pourquoi tu aimes autant James Robinson?
Et, enfin, je sais pas, mais quiconque n'aime pas James Robinson se doit de lire son Nick Fury avec Akko. Le train des assassins chez Panini Comics, on fait de la pub pour entre guillemets la concurrence, mais c'est juste exceptionnel. Clegane, tu voulais parler?
Ouais, je voulais juste dire que tant qu'il ramène pas le frère de Bruce, moi ça me va.
Ah oui.
Et
Clairement.
tout le monde l'a mis sous le tapis, ça, hop, ça disparaît. On fait comme si ça n'avait jamais existé.
Ben oui, bien sûr. Non,
Et
mais
puis.
autrement, ben ouais, son Wonder Woman n'est vraiment pas très bon. Et comme tu dis, ben, il a fait d'autres choses qui étaient mieux dans le passé, donc on peut peut-être espérer que ça soit mieux. Et un Batman plus détective, pourquoi pas? Au moment qu'on n'a pas vu tout seul en détective, donc moi je dis pas non, on verra bien.
Et puis, Pour terminer un petit peu avec cette news-là, James Robinson, c'est un peu le mec qui avait géré Double Face après les événements de 52, en lui redonnant intégralement son visage, en développant un peu sa psyché par rapport à ça, et c'était enfin, inattendu. Donc justement, le fait de réutiliser ce personnage-là de Double Face, je trouve ça vraiment vraiment intéressant. D'une autre, enfin, un peu différent et un peu décevant d'une certaine manière. DC Comics a passé un contrat exclusif avec Walmart pour des comics spéciaux, un petit peu enfin, en majorité des rééditions, qui regroupent le concept des 100 pages, j'arriverai jamais à le dire en anglais. 100 Spectacular Pages, non, en plus il y a Giant à un moment quelque part, mais en gros c'est un gros numéro de 100 pages, on va dire, consacré à Batman. Il y en a un sur la Justice League, un sur Superman et un sur Teen Titans, j'en ai pas raté un, c'est parfait, qui sont des rééditions de différentes séries, une issue de chaque série différente. Donc on retrouve des numéros de Flash par Geoff Jones, de Teen Titans par Geoff Jones, de Batman par Scott Snyder et Capullo, et j'en passerai certainement, mais aussi du contenu exclusif avec Brian Bendis sur Superman, Tom King sur Batman, je sais plus qui sur Justice League. Donc du contenu exclusif exclusivement chez Walmart. Est-ce que ça intéresserait malgré tout quelqu'un? Est-ce que ça vaudrait le coup de se décarcasser à en trouver un par internet et le payer à prix d'or pour des
Bon,
rééditions?
je veux pas rectifier le présentateur, mais c'est le contraire. C'est Tom King sur Superman et Bendis sur Batman.
Super, mais c'est pas grave.
C'est même tout l'intérêt du truc, quoi. C'est qu'ils interchangent leur personnage, quoi. Et voir Tom King sur Superman, moi, quelque part, ça m'intéresse quand même de voir, parce que même quand c'est des récits qui sont entre guillemets pas très importants, ben, le mec arrive quand même à faire des trucs qui sont vraiment stylés, donc. C'est vraiment le récit que j'aimerais bien lire, malgré le fait que ce soit pas disponible en France, que ce soit exclusif à Walmart, qui est comment dire, un élément marketing qui va leur apporter pas mal de thunes, qui va être très intéressant, qui peut apporter des lecteurs, mais bon, enfin, ce sera pas des lecteurs très très assidus, je pense. Donc, je sais pas si au final ça aura vraiment de grosses conséquences, quoi.
C'est ça, moi, ou un peu ce truc comme le fait de créer des comics avec les sorties cinéma. Ils font ça dans le oui, ça nous rapportait plein de nouveaux lecteurs qui vont venir et tout. Et au final, on voit que c'est quasiment jamais le cas où deux ou trois personnes sur les milliers de personnes qui ont été voir les films. Donc, j'ai un peu l'impression que ça va être la même affaire avec ce partenariat avec Walmart. Donc, pas sûr que ça va être gagnant à la fin.
Je me dis que justement enfin bon, on va pas vraiment rester sur le débat du cinéma, que ça permet d'implanter l'image du super-héros dans l'imaginaire collectif, et justement d'accepter plus facilement la lecture de comics et de briser l'image enfantine de super-héros. Je vois
Ouais, mais
des
là,
gens qui
c'est un
vont
autre
s'y
débat.
intéresser, mais ils vont être assez rebutés. Enfin, j'ai des exemples un peu énervants, mais enfin, disons que ça change un peu les mentalités, mais très légèrement, et ça va pas vraiment créer des lecteurs réguliers.
Ouais,
Ah ouais,
c'est
c'est ça.
on peut pas, enfin, forcément, ça fait une porte pour les gens, quoi, et c'est cool, et on peut pas être contre ça, quoi, mais on en connaît tous, je pense, des mecs qui ont lu deux trois comics là sur leur bibliothèque, qui mettent sur leur bibliothèque, et puis après ils en ont plus rien à foutre, quoi. Et puis alors ils vont pouvoir lire des comics intéressants, parce que leur choix de réédition, c'est des lectures qui sont très accessibles et parfois qui sont très très bien. Mais enfin, je veux dire, les mecs qui vont à Walmart, j'ai pas envie qu'ils fassent partie de ma communauté, je crois, quelque part.
Non, parce que enfin, il y a de très bonnes séries. On trouve du Super Sons avec les Teen Titans. Il y a le Flash de Geoff Jones, le Green Lantern de Geoff Jones. Beaucoup de New 52, le Aquaman. J'ai plus les titres en tête, mais là,
Et
c'est vraiment de mémoire.
en plus, le Batman là, par Bendis, il sera dessiné par Nick Darrington, le
Ouais.
dessinateur
Doom
de
Patrol.
Patrol, voilà. Et donc ça, visuellement, c'est hyper intéressant. Donc dans ce sens-là, c'est même un peu dommage de le laisser en tant que simple comic Walmart.
Mais tu vois, enfin, en voyant les noms actuels pour les comics Walmart, À mon avis, c'est vraiment le gros coup de pub pour attirer les lecteurs passionnés de ces auteurs-là. Mais enfin, je m'attends quand même à retrouver dans, peut-être pas l'année prochaine, mais plus tard, une sorte d'édition reliée avec les récits enfin, les inédits de ces numéros-là. Ça m'étonnerait pas plus que ça.
Ça serait pas impossible. Ça dépendrait
Parce qu'ils
peut-être
vont
des
pas
ventes.
laisser ce potentiel prendre la poussière comme ça et rester dans des trucs qui seront par la suite recherchés.
Ouais, c'est sûr que ça
C'est
va
vrai.
ressortir en relié. Mais du coup, enfin, au final, ça va plus attirer des lecteurs de comics à Walmart que l'inverse. C'est un peu con sur le principe.
Oh, quand tu vois le prix pour du 100 pages avec des, enfin, avec une, enfin, pour 100 pages avec des bons titres, mais ça, les gens le savent pas forcément. Tu te dis que ça peut fonctionner dans le sens inverse aussi.
Les gens ils vont acheter ça à leur gosse et puis à moins que le gosse demande vraiment à ce qu'il soit genre abonné ou quelque chose, mais les parents ils vont acheter ça de manière un peu ponctuelle enfin moi quand j'étais petit c'était pareil, je veux dire ma mère elle savait que j'aimais bien les super-héros, elle m'achetait un comics de temps en temps mais j'avais jamais une histoire entière parce que j'ai des numéros d'Ultimate Spider-Man de n'importe où, tu vois, j'ai le numéro 20 puis le numéro 30 puis ça c'est dispatché à fond. Et ça va faire pareil, ils vont acheter le numéro 1, ils vont le donner à leur gosse, voilà, t'es content, tu vas lire ça dans la voiture, qu'on va partir en vacances, et puis après, ils vont pas continuer, quoi.
Ah, les traumas de Sledgy, tu peux les raconter en podcast. Chaque semaine, un trauma de
Oui, alors, quand j'étais
Sledgy.
petit, non.
Non, mais après, enfin, ce lecteur-là va pouvoir être sensibilisé aux comics, ça peut être entraîné par la suite. De toute façon, on sait bien que il y a une portée commerciale, mais disons que l'inédit est plus qu'intéressant. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher ça? Après, nous, pauvres Européens, on a un peu la frustration. J'allais dire de pas avoir de Walmart près de chez soi, mais d'un autre côté,
Ah ouais,
pas
zut!
tellement. Mais on peut vraiment s'attendre à une réédition plus tard, et il n'y a pas vraiment de quoi être déçu. Juste être patient. On va poursuivre toujours avec Bendis de ce côté-là, qui va intégrer Nuclear Man. Si vous n'avez pas entendu parler de Nuclear Man, c'est parce que vous n'avez pas vu le nanar de Superman 4, qui a en gros un méchant. Nucléaire, il n'y a rien de plus cliché. Et en lien avec une relation, enfin, avec une discussion Twitter avec un fan qui avait demandé si Bendis n'allait pas intégrer Nuclear Man dans son récit, Bendis a vu ça comme un défi et il l'a fait. Nuclear Man apparaîtra dès Superman 2, dessiné par Ivan Reis. Donc là, question ouverte, bonne ou mauvaise idée?
Ça dépend comment c'est tourné en fait. S'il tourne ça à la comédie, ça peut être rigolo, quoi. S'il essaye d'en faire un perso hyper sérieux, enfin, à essayer de le rétablir comme un vrai perso, comme ce que aurait fait Tom King, je suis pas sûr que ça marche vraiment.
Quand on voit ce qu'il fait sur Man of Steel en ce moment, c'est très très
Ah.
mentalité 90, donc je pense que ça va être dans cette même mentalité. Mais bon, ça me fait juste quand même un peu rire de me dire que il suffit de faire une proposition Twitter à Bendis pour qu'il t'ajoute un personnage à ses scénarios. Ça me fait rire et un peu peur en même temps, mais.
Ah, tu sais quoi, je vais lui demander de remettre Captain Carrot dans Superman.
Ah, nice.
Et ça serait la meilleure idée du monde.
Laissez à
Ouais.
Grant Morrison, s'il te plaît.
Non, par Bendy, ce serait pas si mal.
Écoute, Bendis, là, il me saoule. Hein, il me déçoit terriblement.
Mais quand tu vois ce qu'il a fait sur les Gardiens de la Galaxie, son Rocket Raccoon était vraiment cool, non?
Oui, mais
Ah
tout
bon?
ce que. Non, mais j'avais bien aimé Gardien de la Galaxie, les premiers numéros, j'ai.
Ah oui, les deux premiers étaient pas si mal. Les deux
Je
premiers.
crois que je m'étais arrêté au 6. Après, j'ai arrêté de lire Marvel pendant un moment. Et...
C'était pas si bien alors.
Enfin, Bendis, je l'aime bien. Mais là, c'est terrible ce qu'il fait, quoi. C'est vraiment naze.
Qui, enfin, y a pas d'autres fans de Nuclear Man, ce bizarro raté de Superman 4?
Ah, ben là, c'est un public particulier que tu demandes en même temps.
Ah bah, désolé, hein, on n'a pas tous la chance de regarder des bons films. Hein.
Bah, vous avez pas tous vu Swamp Thing 1 et 2? Enfin, je veux dire, les mecs.
Non, le premier m'a suffi, j'ai pas pu voir le deuxième.
Et après, ça se veut être sur DC Planet, quoi.
T'as mangé la série Swamp
Le dessin animé, là?
Thing? Non, non, non,
Ou
la
le.
série live.
Ah oui, non, oh non.
Ouais, ça se veut être sur DC Planet.
Ouais, moi j'ai vu style, ok? J'ai vu Style avec Shaquille O'Neal.
Putain, ok, d'accord, t'as la plus grosse, je peux rien dire. Donc on va enchaîner avec Dan DiDio, le papa actuel de DC qui va revenir écrire des comics, parce que pour montrer qu'il en impose quand même, il va écrire du Superman, parce que du coup on a le papa de Marvel, enfin l'ancien papa de Marvel qui va écrire Superman, et Dan DiDio, le papa de DC, qui va écrire du Superman dans un label autre, mais on ne sait pas encore lequel, aux côtés de Shane Davis qui a entre autres dessiné Superman Earth One. Donc, on n'a pas plus d'informations que ça, mais est-ce qu'on peut être enjoué de retrouver Dan DiDio prendre les crayons?
ça fait toujours marrer comme phrase.
Est-ce qu'on peut être enjoué Dan DiDio et crayons, ça fait marrer.
Est-ce qu'on peut être enjoué de Dan DiDio, tout
court? Bah lui, apparemment, il rigole tellement.
Non, écoute, apparemment, j'ai pas lu Sideways encore. J'ai pas encore osé trop toucher à tout ça.
Mais c'est pas trop mal. Hein.
Mais ouais, voilà, ça a bonne réputation. Alors, écoute, hein, je pense que ce sera un label genre Ink ou Zoom, donc pour le public un peu plus jeune. Je pense que ce sera là-dessus. Et écoute, je laisse faire, hein, mais enfin, je suis pas un grand fan du monsieur, quoi.
En fait, à en parler comme ça, c'est vrai que je vois bien le style de Shane Davis sur un DC Ink.
Ah oui, carrément. Mais toi qui aimes bien Future Quest, ça aurait pu s'y prêter bien. Il faisait les covers de... Je sais pas s'il a dessiné dessus, vraiment.
Je crois qu'il avait assisté pour un numéro ou deux, mais ça c'est vrai. Enfin, j'avais même pas reconnu. Je sais pas, au hasard, June Thunder, tu ne parles pas des masses.
Non, mais comme je dis, moi je suis un lecteur VF, donc...
Ah oui, merde. J'avais donc, je n'aurais pas de lumière à porter sur Dan DiDio. Le mec, il se spoil la VO, mais il lit pas la VF. Clegane.
Ouais, donc bah, j'ai pas tellement d'avis, mais comme je disais, Sideways pour l'instant c'est pas si mal que ça.
Ah oui, merde, c'est vrai, j'avais oublié que tu venais d'en parler.
Ouais, mais c'est pas grave, j'aime
parler. Moka, un petit mot là-dessus?
Sur l'auteur en lui-même, pas trop, mais après c'est bien parce qu'il y a beaucoup de projets sur Superman qui se multiplient en ce moment, et pas que sur lui, hein, sur Batman aussi. Mais du coup, il y aura à boire et à manger pour tout le monde, donc c'est pas plus mal.
D'accord, gros buffet en préparation chez DC Comics, tout va bien. On enchaîne avec Red Hood qui va, entre guillemets, entrer dans une nouvelle ère, qui implique donc un nouveau costume et un nouveau dessinateur. Dans un style plus urbain, ce costume va réimpliquer la capuche, les sortes de protections, genouillères, etc. Et en arme, le pied de biche. Attention, grosse référence, Jason Todd, Red Hood, la mort, le pied de biche. Et tout ça sera mis en place dans Red Hood and the Outlaws numéro 26, qui verra également l'arrivée d'un nouveau dessinateur, Pete Wood, qui a récemment officié sur l'arc, enfin le run de, merde, comment il s'appelle, Christopher Priest sur Justice League. Donc c'est un costume qui ressemble plus ou moins à ce qui a été fait sur l'univers Arkham. Est-ce qu'on a des avis sur sur ce nouveau costume et des lecteurs du titre?
Le costume, bon, bah, c'est un peu plus, c'est un peu moins super-héros, quoique, bon, ça l'était déjà pas beaucoup, mais là, c'est vraiment avec la capuche et puis le sort de vêtements qu'il a à manches, sans manches, et le jean, ça fait très, très urbain, et ça se prête plutôt bien, du coup, à Red Hood. Le fait qu'il ait plus d'armes à feu, c'est peut-être pas plus mal, parce que quand on a arrêté de tuer, et qu'on utilise quand même des armes à feu, c'est compliqué. Et du coup, ce redesign là, moi ça me plaît plutôt bien. Et ça me changera pas vraiment ma vie. Hein, mais, je déplore un peu plus le départ de Dexter Soy du titre, qui était vraiment le gros point fort de Red Hood and the Outlaws, c'est que c'était hyper bien dessiné. Et là, du coup, bon, Peter Wood, j'aime bien. Hein. Pete Wood, pardon, j'aime bien, mais c'est quand même un peu moins stylisé que Dexter Soy. Et par contre, toujours Scott Lobdell, cet homme qui n'arrive pas à prendre sa retraite, et qui faisait quand même un truc à peu près stylé dans Red Hood, mais enfin, je veux dire, ce mec aura toujours un titre chez DC, c'est un truc de malade.
Je trouve que justement avec Red Hood, il arrive pas vraiment à se détacher de l'ambiance un peu nanardesque. Mais là, sur les derniers numéros, enfin, j'étais vachement surpris. Et même si c'était assez maladroit et un peu idiot dans le sens où T'as Redwood qui est en train de déterrer son père, et t'as le pingouin qui le regarde faire limite en rigolant, mais avec un peu de compassion sur la fin. Mais c'était fort, et à la fois un peu, enfin, le pingouin n'avait pas sa place là, mais ça faisait quand même son effet. Et comme tu disais, Dexter Soy, c'était vraiment super bon un artiste, mais je me dis qu'on perd pas tellement au change, parce que Pete Woods peut donner quelque chose de très très bon aussi. Donc il y a pas de lecteur de Redwood ici.
Malheureusement, non, j'ai toujours pas commencé la série, donc je peux pas dire grand chose, à part que je trouve le costume sympa.
Le pied de biche, il est assez malvenu, quand même, je trouve. Hein. C'est un peu comme si Batman portait un flingue, quoi.
C'est un emblème. Batman en a porté. C'est une sorte de symbole, quoi. Tu utilises l'arme qui a causé ta propre perte.
Ouais, mais du coup, c'est comme si Batman utilisait un flingue, alors que c'est un flingue qui a tué ses parents, tu vois. Je trouve que c'est un peu le même délire, et c'est pour ça que je trouve ça malvenu. Ça fait fan service, mais malsain.
Ouais, mais oui, certes. C'est vrai que c'est un peu malsain.
Sais pas, Redwood, il va pas te taper avec des peluches de poney, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais, mais un pied de biche, c'est lourd, quoi.
Ouais,
c'est...
mais je vois mal quelqu'un dire, ah, j'utiliserai plus jamais de pied de biche de ma vie. Je sais pas, c'est quand même, l'arme à feu est quand même un combat assez spécial, alors qu'un pied de biche, bon, bah, s'il utilise l'arme qu'il a créée, donc, sachant que ça tue pas des gens, enfin,
après,
si tu peux
juste prendre une barre métallique ou un grand bâton en métal, ouais, pas changer grand chose, mais ouais, je comprends ce que veut dire Moka, c'est un peu bizarre en soi.
Oui, il a tout à fait raison, mais après, le personnage est pas quelqu'un de droit, donc
ni de vraiment sain d'esprit en lui-même, donc ouais.
Ouais, voilà, c'est un peu un sale con, hein, finalement, Jason.
Et c'est pour ça qu'on l'aime,
oui.
On va terminer les comics VO avec le retard déjà prévu pour Justice League Odyssey, qui est désormais prévu pour fin août, ce qui en dit long sur le rythme de la série, qui a ce que bien d'être assez catastrophique, et on se doute bien que c'est par rapport à Stefan Sejic et ses dessins, puisqu'il s'occupe des intérieurs, qui prennent du temps, et c'est un artiste qu'on connaît pour ça. Et on se demandait déjà à la sortie en podcast pourquoi est-ce qu'il l'avait mis sur une série régulière alors qu'il a du mal à tenir le rythme.
Breaking news, je t'interromps vite fait.
Wow.
Il s'est expliqué sur Twitter de pourquoi il y avait autant de retard, parce que c'est quand même un retard énorme. Il y a quasiment 2 mois entre la date initiale et la nouvelle date. Et en fait, c'est que c'est DC qui a merdé apparemment, et que il a dû redessiner les 2 premiers numéros intégralement, quasiment. C'est ça qui a mis, c'est ça qui fait que il va se décaler de 2 mois, c'est qu'il est obligé de redessiner les 2 premiers numéros parce que ça ne collait pas avec ce que voulait DC, ce que voulait l'auteur, enfin des trucs comme ça, quoi. Du coup, c'est plutôt une plus que l'artiste, qui est quand même assez lent dans son rythme, ouais. C'est surtout l'entente, quoi, enfin, il y a eu une mésentente chez DC, quoi.
Mais du coup, c'est encore pire, parce que du coup, ça veut dire que le mec avait pris de l'avance sur ses numéros, qu'il les a envoyés, que ça n'a pas été au dernier moment, enfin, au dernier moment, là, il y a encore de la marge, mais qu'il doit recommencer, donc perdre l'avance qu'il avait prévue pour terminer la série, donc le retard. va être remis à plus tard aussi. C'est super dégueulasse.
Du coup, ouais, c'est vrai que maintenant on risque d'avoir des numéros assez avec des deadlines qui ne seront pas vraiment respectés, quoi. On risque d'avoir des resollicitations de quelques semaines au moins à chaque fois. C'est un peu le risque avec lui, quoi.
Et il risque même de pas être satisfait de ce qu'il va faire, pressé par le temps. Et c'est... Enfin, quand tu vois que Stefan Sejic, c'est le mec qui, justement, soigne à fond ses productions, quitte à se retirer pour laisser de la place à quelqu'un d'autre, enfin, c'est un peu aberrant.
Enfin, c'est ça le risque, un peu. Enfin, ce qui va être un peu dommage, c'est que ce que fait DC, quand les artistes n'arrivent pas trop à suivre le rythme, c'est qu'ils changent directement d'artiste et qu'ils mettent des bouche-trous, entre guillemets. Les pauvres gars, ils sont pas dépourvus de talent, quoi, mais ils sont là parce qu'ils sont un peu plus rapides que l'artiste principal, et avec la New Age of DC Heroes, on a ça tout le temps. Les artistes qui devaient être là, qui étaient censés être le fer de lance de chaque titre, et ben, il y en a quasiment plus aucun qui dessine encore sur leur personnage, quoi. Et c'était le cas aussi avec Justice League versus Suicide Squad, que tu adores.
Ouais.
Et puis même le badge.
Ouais. Mais je pensais surtout à Aquaman, où justement il avait fait son taf, et il a laissé sa place à quelqu'un d'autre. Et même si ça a été assez abrupt, le changement de style, bah au final, tu t'adhères. T'adhères parce que c'est la suite de ton histoire, et tu t'adaptes au nouveau style, qui au final reste assez soigné, malgré la différence de niveau entre Stephen Sejic et je ne sais plus comment s'appelle l'artiste qui l'a suivi. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est dommage pour Justice League Odyssey.
C'est même Ricardo si, quelque chose. Ah, oh, je sais plus. Ricardo Federici.
Ouais, on va l'appeler Ricardo, comme tu dis. On va passer au ciné et commencer à faire parler June Thunder je suis sûr, il s'est endormi, le gars.
Mais
avec
non.
Le film Joker, qui trouve son directeur photo en la personne de Lawrence Cher, qui s'est occupé, entre autres, des films Very Bad Trip et d'autres films qui sont vraiment des films très similaires à Very Bad Trip. Donc, personnellement, je le vois vraiment mal sur un film Joker et je sais pas vraiment ce que vous en pensez. Et justement, j'aimerais bien savoir si vous arriverez à me vendre Lawrence Cher en directeur photo pour le Joker.
Non.
D'accord, merci.
C'est
vas-y,
clair.
Développe, John.
Mais non, mais t'as tout dit, quoi. Il a fait Very Bad Trip 1, 2, 3. Toute sa filmographie est composée essentiellement de comédies dont, personnellement, la photographie ne m'a pas marqué. Il a fait, voilà, récemment il a fait War Dogs. Prochainement il sera sur un projet plus ambitieux, puisqu'il sera sur le prochain Godzilla, je crois.
Ah, ça, et, je savais pas.
Mais voilà, c'est principalement que de la comédie. Peut-être pas des films où on s'attache vraiment beaucoup à la photographie. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute, mais voilà, avec ce qu'il a fait, je pourrais pas te le vendre.
Mais après, quand on part de ce constat-là, est-ce qu'on peut nous vendre un film de Joker réalisé par un réalisateur de Very Bad Trip? C'est un peu la même chose.
C'est surtout ça le gros problème, ouais.
Donc de base, le projet, on sait pas trop à quoi s'attendre.
Enfin, on sait sur le projet que maintenant qu'il semble être confirmé, je crois qu'il y a des sources qui avaient révélé que ce serait un film à petit budget, peut-être 65 millions d'euros, ce qui est...
Ouais, dans ces eaux-là, il me semble avoir vu aussi.
Donc avec un ton peut-être plus réaliste sur des origines du Joker, donc... à voir, mais le film semble pas très très ambitieux malgré son casting 5 étoiles.
Après, il faut se dire que si Joaquin Phoenix rejoint vraiment le film, que le mec a l'air d'être assez pointilleux sur le choix de ses films, donc c'est que Todd Phillips a vraiment une idée qui a l'air bonne. Autrement, ça serait bizarre qu'il s'engage là-dedans.
Ouais, je suis quand même... vérifier, je pensais que c'était sur le film avec Jared Leto.
Ah non, non.
Non.
Je commence vraiment à me mettre le pinceau avec ces trucs-là. Ah oui, mais non, vous avez raison, c'est moi qui me suis planté.
On parlera de Jared Leto après.
Oui, justement. Donc, ah non, du coup, ça me surprend encore plus de voir ce directeur photo-là, sur ce projet-là. Mais sachant qu'ils ont un peu plus de liberté. Je me dis que c'est un directeur photo qui a joué avec des effets de... Enfin, je sais pas, mais Very Bad Trip, j'ai pas tout vu, mais j'ai des souvenirs qu'il y avait des jeux de lumière et couleurs assez jaunes, et je me dis qu'ils peuvent jouer, ils peuvent profiter de cet aspect-là pour donner un nouveau regard sur le Joker, d'autant plus qu'un Joker interprété par Joaquin Phoenix, ça va pas être le Joker qu'on connaît.
Si c'est Joaquin Phoenix, hein, encore une fois, les gens
ont
tendance à accepter ça comme un fait, mais c'est toujours pas le cas.
Et si c'est un film sur le Joker et non sur les origines du Joker, peut-être que ça se trouve, on le verra. On le verra très peu en Joker sur la totalité du film, quoi.
Trop de spéculation, je suis en train de me perdre.
Voilà.
Tout va bien.
Voilà. Mais on est d'accord que le gros problème, c'est Todd Phillips qui ramène ses potes quoi sur le film c'est ça le problème. Et au début il devait y avoir Scorsese à la production, alors je sais pas si ce sera encore le cas ou si c'est plus le cas, parce que ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler du fait qu'il était impliqué, et c'est lui qui aurait dû apporter des trucs quoi, parce que foutre un réal comme ça, bon bah c'est le moment pour lui de briller quoi, c'est clair, mais ça donne pas très confiance, même si c'est un film qui a l'air plus sur la psychologie et tout, enfin qui a l'air un peu plus mature et sérieux et à la fois introspectif sur le Joker comparé à Suicide Squad quoi, qui était une grosse blague à côté quoi.
Moi je suis d'accord avec toi, mais je me dis que si le mec et chez DC pour leur dire « Bon, vous voyez, là, j'ai un projet pour faire un film Joker. » C'est qu'il a vraiment un truc qui lui tient à cœur et qu'il a une idée, quoi. Il va pas essayer de nous faire un vieux film pourri avec un Joker qui a les dents en or. et que peut-être que s'il veut ramener son ancien directeur de la photo, c'est parce qu'il veut se mettre une team qui connaît autour de lui. Et dans ce sens-là, oui, je peux le comprendre, même si ouais, ça peut faire un peu peur parce que le mec n'a surtout fait des comédies, mais on verra. Ouais, je suis pas complètement défaitiste à son encontre.
Oui, moi non plus, surtout que l'idée même du projet m'intéresse, quoi. C'est vrai que les personnes impliquées ne m'inspirent pas trop confiance, mais l'idée me plaît. Après, je suis pas sûr que ce soit lui qui ait eu l'idée. Je pense que c'est plutôt le studio qui a peut-être commencé à semer l'idée dans la tête de quelques-uns de leurs créatifs qui sont quand même qui ont tendance à faire des films chez Warner, quoi.
J'ai dit peut-être une bêtise, mais il me semble avoir lu que c'était bien lui qui avait été donné l'idée, vu que c'est lui qui écrivait le scénar. Mais je suis pas certain du tout, j'ai dit peut-être une bêtise.
Ouais, il écrit peut-être le scénar, ouais. Après, enfin, tu sais jamais trop comment ça, l'idée a germé dans leur esprit, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Mais en fait, vous m'avez pas forcément convaincu pour le directeur photo, mais vous m'avez vachement rassuré parce que je commence à me dire que même si le mec a pas le CV pour, ça semble le petit projet qui n'a pas grande prétention en dehors du fait de raconter son histoire. Et je me dis que de là, on peut au moins tirer un potentiel.
Bah c'est ça, parce que là, on sortirait des univers partagés, qu'on aime ça ou non, mais ça serait juste un film pour un film. Bon, à part si il y a des rumeurs comme quoi il voudrait le relier au film Batman de Matt Reeves, ce qui serait une mauvaise idée à mon avis, mais bon, voilà. Mais si c'est vraiment juste un film, pour moi c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire qu'on pourrait revenir à des idées de faire des films de super-héros ou adapter de comics, juste pour faire un film, et pas dans l'idée d'adapter tout un univers, et de faire 15 films après.
Si plus personne n'a envie de parler du film de Todd Phillips, on va passer au film de Joker avec Jared Leto. Qui va jouer Morbius pour le film Morbius chez Sony, le vampire de chez Marvel de l'univers Spider-Man, où Variety affirme que le film Morbius n'impactera pas le film Joker dans lequel joue Jared Leto. Est-ce que ce serait pas un peu l'annonce qui viendrait rassurer pour éviter une seconde entre guillemets moustache gate ou autre, ou simplement pour prévenir que Jared Leto peut très bien jouer chez l'un et jouer chez l'autre sans vraiment créer de dualité ou autre ambiguïté parmi les spectateurs.
Je pense qu'ils nous ont rassurés.
Vas-y.
Heureusement qu'ils nous ont rassurés. Moi, j'ai eu très peur quand j'ai lu que il jouait Morbius. Je me suis dit, oh, attends, on va pas voir notre deuxième film sur le Joker.
Quoi, <t'es rire>
Quelle douce ironie.
Non, mais bon, à part ça. Jared Leto, Joker, non, j'en ai même plus envie, c'est bizarre parce qu'on a des podcasts, j'étais assez ouvert à l'idée, mais maintenant, avec un peu de recul, j'en ai même plus envie de voir ce personnage.
Je crois que c'est parce qu'on en parle beaucoup aussi, en fait.
En plus.
Tu es devenu gris avec l'âge.
C'est ça, j'ai vu des accusations envers Jared Leto qui m'ont un peu refroidi envers le personnage, donc, ça fait un peu beaucoup.
Et ouais, vas-y. Pour cette annonce, je pense qu'ils essayent de rassurer le public qui. Peut-être qu'il y a un public qui attend Suicide Squad 2 ou un film où Jared Leto serait de nouveau le Joker. Parce que forcément, les gens se disent, et s'il est chez Marvel, c'est qu'il est plus chez DC, ce qui n'est pas le cas. On a déjà eu plusieurs exemples d'acteurs qui travaillent chez l'un puis chez l'autre, quoi.
Puis on va en parler juste après aussi, donc.
Ouais. Et par contre, le truc, c'est que du côté de Jared Leto, il fait aucun marketing sur le fait qu'il reprenne son rôle du Joker, surtout qu'on sait qu'il a eu une très mauvaise expérience quand il l'a fait par rapport au résultat final qui ne lui allait pas, et c'est compréhensible, n'est-ce pas? Du coup, alors que Morbius, tu vois, il en parlait un peu, enfin, il l'a mis sur Twitter, alors que, tu vois, le Joker, il en parle plus. On en parle plus nulle part, t'as l'impression que c'est un peu tabou et t'as l'impression qu'il a pas tellement envie de le refaire. Le problème, c'est pas que Morbius l'empêche de faire le Joker, c'est est-ce qu'il a vraiment envie de faire de nouveau le Joker tout court, quoi. sachant que le projet avance pas, alors que là, les films DC commencent un peu à nouveau à avancer, la production commence un peu à se lancer, et puis lui, par contre, n'en fait pas partie, quoi.
Il n'en fait pas partie, ou alors il ne veut pas en faire partie. Parce qu'on connaît un peu le caractère.
Exactement.
Quand même.
Ouais.
June, pas d'avis.
Bof, moi j'aime bien Jared Leto.
Ok.
Non mais
je l'aime bien aussi.
En soi, on parlait du Moustache Gate en référence à Justice League, mais là je pense pas que ce soit le cas. Je pense plus que ce soit du fait qu'on parle beaucoup, qu'on ait beaucoup de news sur le nouveau film Joker avec possiblement Joaquin Phoenix. Et moins de ce film Joker là qu'il veuille rassurer en fait, disons que les deux sont bien prévus quoi, et qu'ils ne mettent pas sous le tapis le Joker de Leto quoi. Je pense que c'est plus dans ce sens là qu'il rassure le public, on va dire.
Sur la com, DC est juste en train de se faire des croche-pattes à soi-même avec les histoires de deux films Joker.
Oui, ça bien sûr.
Mais vous dites rassurer, mais cette info, ça vient de Variety, ça vient pas de DC.
Ouais, ça vient de Variety.
Pourquoi Variety voudrait rassurer les gens?
Bah en fait,
c'est une info qu'ils ont entendue.
Ouais, en fait, c'est Variety qui aurait une source du studio qui leur dirait que Jared Leto a bien fait son planning pour qu'il puisse jouer le Joker de Suicide Squad dans un autre film, etc.
Et concrètement, ouais, je pense pas que Variety en ait quelque chose à foutre du planning de Jared Leto, et qu'à mon avis, l'info, elle a été volontairement donnée et on a incité à écrire là-dessus.
Ouais, dans ce sens-là, ok, ouais.
Parce que bon, le planning des acteurs, à moins qu'il y ait une fuite sur un film dont personne n'avait parlé et que les producteurs aient voulu garder secret, les journalistes, ils s'en battent un peu les couilles de mecs.
Oui, c'est clair.
Faire ça comme ça. On parlait donc de Jared Leto chez Marvel et chez DC, mais là, c'est Lewis Tan, issu de Deadpool 2. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a joué dans Deadpool 2 vu le... Enfin, je me rappelle même pas l'avoir vu, en fait.
Dans moi, j'ai dû googler son nom pour trouver quel personnage il avait joué dans Deadpool 2.
Du coup, vas-y, éclaire-moi, il fait qui?
Alors, spoiler si vous n'avez pas vu Deadpool 2.
Cool.
Tu vois la X-Force?
C'est chez ta star?
Je sais même plus son nom, c'est le mec qui est tout en blanc et en noir dans la X-Force.
Ouais, la sorte de l'alien, quoi.
Ouais, voilà, oui, c'est lui, voilà.
Ok.
Qui crache de l'acide ou je sais pas quoi. Non, ça c'est
non,
l'autre.
Oui, tu mélanges tout.
C'est ça que vous appelez des spoilers? J'ai rien compris.
Les gens, ils savent même plus de quoi on parle.
Vive les super-héros avec des phrases incompréhensibles.
Bon, voilà, c'est un personnage de la X-Force.
D'accord. Ok, bon, à mon avis, c'est Shutterstar.
Ouais, pas très important, quoi. Enfin, le truc, à mon avis, que les gens parleront le plus, c'est qu'il est métisse, je pense. Vu son nom et son visage, hein, même si c'est extrêmement raciste ce que je dis.
Ce podcast, il part bien, là. On est bien.
Je suis même pas encore ivre.
En fait, tu es en train de t'emmêler les pinceaux, mais j'ai même pas fini de présenter la news.
Ah non, mais je ne t'écoute plus, moi. Je...
Donc là, je viens de vérifier. Oui, c'était bien Shutterstar dans la X-Force et le mec avec ses lames. Pour ceux qui l'ont vu et qui ne connaissent pas Shutterstar. De toute façon, c'est dessiné par Rob Liefeld en général, donc ça vaut pas vraiment le coup. Vas-y. Donc il s'agit de Lewis Tan qui serait en lice pour jouer Nightwing dans le film du même nom, réalisé par Chris McKay. Et c'est pas encore confirmé, mais disons qu'on est plus ou moins dubitatif d'après les commentaires.
Bah, lui dit qu'il a rencontré les producteurs exécutifs de chez DC et qu'ils lui ont parlé du rôle de Nightwing parce que Chris McKay, le réalisateur du film, voulait quelqu'un qui avait une expérience dans les arts martiaux. Et donc voilà, le personnage aurait été évoqué avec un rôle pour Lewis Tan en tant que Nightwing.
Pourquoi tu dis que vous êtes dubitatif?
Bah, je sais pas, j'ai vu des commentaires qui disent qu'en fait, il ferait le taf, mais il a pas l'allure. Mais bon.
Moi, je suis super, super chaud, en fait, pour lui. Parce que, je le connais pas tellement, j'ai pas vu Deadpool. Bon, même si on le voit pas dedans, vraiment.
Non, enfin, on le voit un petit peu, mais je pense pas que ça fasse vraiment état des capacités du gars.
C'est ça. Mais donc, en soi, déjà, il répond à la volonté du réel d'avoir un artiste martial et un mec qui se la pose en tant que sportif. Et la forme physique, déjà, clairement, pour jouer le rôle. Et même son visage, moi, je trouve que, j'ai vu quelques photos de lui et je trouve qu'il avait, un peu le sourire à la Grayson, le sourire, super solaire, quoi. Le mec que tu le regardes, tu sens en sécurité avec lui. Et
les gars n'est tombé amoureux.
C'est son amour dans cet homme.
Tout à fait, je l'ai découvert hier, c'était... Mais
depuis, il a ouvert le fan club Lewistan.
Tout à fait. Mais ce podcast, c'est n'importe quoi. Mais donc, ouais, non, moi, je suis... En plus, ça permet de le différencier, parce qu'il ne ressemble pas du tout à l'acteur de la série Titans. Donc ça permet de faire une différenciation, parce que quand les deux Flash se ressemblent entre la série et le film, là, non.
Je sais.
Ouais, mais il y a quand même un air, ils sont bruns tous les deux, ils ont l'air un peu. Ils sont minces, voilà. Et bah, tu m'as perdu. mais voilà, moi je suis plutôt pour.
Enfin, et puis après, les gens qui disent qu'un tel n'est pas fait pour jouer. Enfin, sont dubitatifs, comme tu l'as dit.
Ouais.
Enfin, c'est toujours le cas pour chaque personnage ou chaque choix de casting. Il y en a toujours des gens qui font cette réflexion, quoi.
Oui, mais là, j'avais ressenti, pas une majorité, mais justement une division. Et
souviens-toi, les gens qui disaient que Jared Leto ne pourrait pas faire un bon Joker, ben voilà.
Souviens-toi, les gens qui disaient que Jared Leto ferait un bon Joker.
Ouais, bah, de notre côté, on y avait vraiment cru. Hein.
Bah, il y avait de quoi. Enfin. Ouais. Et là, le truc, forcément, c'est le choix, on va dire, ambitieux. De prendre un asiatique, ça va pas plaire à certains, parce que ce sera pas le Nightwing qu'ils ont vu dans les comics. Oui, vous savez, je suis hyper attaché au fait qu'il ait des cheveux noirs et des yeux bleus.
Faut arrêter avec ces gens-là, quoi.
Oui, non, mais ces gens-là parlent très fort sur Internet. Et du coup, forcément, ils vont râler. James Edge Grayson sera pas heureux parce qu'il ne lui ressemblera pas. Alors que c'est sa plus grande fierté. Hein. Mais moi j'aime bien l'idée que de prendre un mec qui soit vraiment doué dans les arts martiaux, dans les acrobaties, tout ça. Je trouve que c'est vraiment cool. Le fait que Tom Holland était assez doué là-dedans pour faire Spider-Man, tu vois, je trouvais ça vraiment cool. Donc là. Pour moi, c'est un peu pareil, je serais content. Après, lui-même, je ne sais pas comment vraiment il joue la comédie, je le connais pas. Moi je ne juge plus les acteurs quand ils font des castings comme ça, je verrai déjà, quoi.
Par contre, ce qui m'a surpris, moi, c'est que un projet de film Nightwing par McKay, c'est ça, McKay.
Ouais.
Je pensais vraiment, au vu de ce que disait le réal, que DC lui avait dit ouais bah vas-y fais ton film, on en reparle dans quelques années, hein. Okay. Je pensais vraiment qu'ils allaient mettre au placard ce film, mais donc apparemment non, ils sont vraiment en train de chercher des acteurs, et ça m'étonne, et ça m'étonne dans le bon sens du terme, parce que j'aime Nightwing, et voir un film sur lui, ça me donne quand même envie.
Non mais t'as pas compris, en fait. Là, DC va te défoncer le sex appeal cinématographique dans les adaptations de comics. Genre tu vois, là ils sont en train de préparer Nightwing, ça va être la bombe qu'ils vont lâcher. Genre là, tu vois, t'as Chris Evans, t'as Chris Hemsworth, tout ça. Là en ce moment, t'as toutes les groupies qui sont en train de hurler les noms. Et là, ils vont te balancer un Lewistan en plein milieu bodybuildé à mort, en train de te faire des acrobaties avec un booty énorme. Et là, t'as tout le monde qui va baver sa race, et Marvel, on va plus en entendre parler.
Tu viens de décrire Arrow, là, quand même.
Non. Arrow, c'était... on va te faire une série trop dark. Et d'ailleurs, on va en parler des séries dark tout à l'heure. Et j'ai peur de ça.
Ah,
aussi.
Belle transition.
Ah non, mais en fait, là, j'ai foiré ma transition parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Attends, je fais des transitions imprévues. Non, t'as raison. Je suis super bon pour les transitions. Et ouais, du coup, on va parler des séries dark qui ne seront peut-être pas si dark que ça.
Ah, c'est là qu'on connaît le professionnel. Hein.
Et ben voilà, qu'est-ce que tu veux.
Je suis très admiratif.
C'est un poil foiré quand même. Hein.
Ouais, pas du tout. Clegane. Donc, on va parler de Titans avec les nouvelles photos qui nous ont dévoilé un Orelsan, mais non, en fait, c'était Robin. Et comme quoi, cette série serait rated R. Un peu plus sombre que ce qu'on pouvait en attendre, puisque l'attente, c'était un peu la crainte d'un CW bis. Seulement, des photos sombres, ça veut pas forcément dire que ça va pas faire du CW bis, et que malgré cette approche, cette esthétique, on pourrait ne pas échapper au cliché de la série de super-héros actuelle. Donc avant de parler du synopsis de l'épisode pilote qui a dévoilé certaines pistes qui, à mon avis, seront des fils rouges le long de la série pour certains points. qu'est-ce que vous avez pensé de ces photos et des nouvelles photos du costume de Robin?
Bah, c'est toujours le même.
Waouh, alors Mocha, Mocha, t'as pas parlé de toute la partie ciné, et c'est pour me dire que c'est le même comics de Robin.
Non, mais c'est toujours le même personnage qui nous montre, en fait. C'est ça qui est un peu chiant, je trouve. Enfin, c'est bon, on a vu que son costume était réussi, que l'acteur rendait bien et tout. Maintenant, il faut montrer les autres. Surtout que ouais. Starfire, Beast Boy et Raven n'ont pas trop convaincu jusque-là. Bon, maintenant, on sait pourquoi, à peu près. Mais du coup, il aurait fallu les montrer eux, plutôt, je pense. Là, c'est vraiment... on montre Robin sous différents angles. Vous avez vu comment le costume est trop bien. En plus, les photos sont pas... Enfin, la photo, on le voit de la tête aux pieds, elle est pas si réussie que ça, parce que ultra photoshopé, ça rend pas super bien, je trouve. Mais bon, voilà.
Ouais, je fais partie des 3% de personnes qui sont pas hyper convaincues par le costume de Robin, en fait.
Ah, pourquoi?
Bah, je le trouve réussi dans l'ensemble, mais déjà, je le trouve terne. Bon, ça, je pense que c'est pas le fait qu'il a plus envie de Robin, il est fatigué, voilà, donc son costume est aterni. Mais en fait, c'est au niveau des manches et l'espèce de texture de costume qu'ils ont pris. Je trouve ça un peu bizarre et ça fait vraiment une espèce de combinaison de mode. Ça donne des manches hyper amples. Et je trouve le rendu est bizarre. En fait, j'aurais préféré avoir un costume un peu plus à, comme vous savez, comme dans les Arkham. Robin, il avait une espèce de juste de buste, sans les manches. Et je pense que ça aurait mieux rendu là, sans les espèces de manches de combis et des ondes moto. Mais après, en soi, le costume est quand même très très bien. Je chipote un peu.
Oh, tu chipotes pas mal, ouais.
Ouais, il a un ourlet sous les manches, là je trouve que c'était pas très bien fait.
C'est vrai.
Il a trois plis.
Par contre, ses bottes sont bizarres.
J'ai l'impression qu'en fait c'est une figurine un peu comme que quand t'avais les figurines en plastique un peu Batman Tass, les gants un peu gros, la cape molletonnée, t'as l'impression que c'est la même texture qu'une figurine sur la photo. T'as envie de la bouger et voir si elle est vraiment articulée. Pas d'autres retours sur les nouvelles photos, l'esprit trop dark, tout ça.
Ah si, l'esprit dark.
Juste sur la photo, moi de ce que j'ai pu lire dans les commentaires, enfin ça. Le consensus, il a l'air plutôt positif, quoi.
Oui, oui.
J'ai pas vu beaucoup de commentaires négatifs sur le costume. Je pense que tout le monde trouve qu'il est assez réussi.
Ouais, bah, c'est assez surprenant de la façon dont il est réussi, en fait. Je pense que tout le monde s'attendait à un truc un peu bateau, et puis au final, je pense qu'on a tous été surpris, et du coup, on garde un bon souvenir de ça. Mmh. Après, c'est vrai que, comme disait Mocha, faut attendre de voir les autres, quoi.
Donc on va poursuivre sur la série Titans, qui a dévoilé quelques pistes de son plot, par rapport à l'épisode pilote. Donc, on retrouverait les trois membres de l'équipe qui seront composés de Robin, Raven et Starfire, qui seront un peu les personnages principaux, entre guillemets. Et l'épisode pilote mettra l'accent sur la relation Batman-Robin et évidemment, certainement, la rupture qui risque fortement d'arriver, puisque Jason Todd a été évoqué pour l'épisode 7, je sais plus. Je crois que c'est 7.
Oui.
S'ensuit une explication du costume de Starfire qui sortirait d'une soirée disco. Je sais pas si vous voulez vraiment revenir sur l'idée d'une soirée disco, mais j'ai l'impression que c'est juste une excuse. Mais
à voir comment ça rend dans l'épisode en lui-même, quoi.
Une soirée disco en 2018.
Ils l'ont filmé juste en train de sortir d'une soirée disco, juste après avoir vu l'image sur internet et tout le bashing, juste pour faire ah oui, non, mais elle sortait d'une soirée disco, vous savez. Hein.
Ils ont fait des reshoots pour faire la soirée disco.
Reshoot de la soirée, putain.
Non, mais disco gate.
Je trouve ça se tient parce que la dernière fois j'étais à une soirée, la Star 80, je l'ai croisé la petite Starfire.
Qu'est-ce que tu faisais à une soirée comme ça? Explique-nous.
Avec Patrick Timsit et puis
en fait Patrick Timsit c'est un guest de la série Titans,
voilà,
c'est le méchant principal, c'est le pingouin.
On va reprendre un minimum de sérieux pour la relation Batman-Robin.
Oui, parce que c'est dark, ce Titan, c'est dark.
C'est bien dark, c'est bien dark la relation Batman-Robin. Non mais est-ce que vous attendez à une direction radicale vers Nightwing assez précipitée, quelque chose qui va être entretenu, une apparition de Batman? Non,
Donc
rien de pas.
Nightwing cherchait pas, il arrivera au dernier épisode, à la dernière seconde,
Il y a
il
moyen,
mettra
ouais.
son beau costume bleu, bleu et noir, et c'est tout.
Clay gagne frustré avant même la diffusion du pilote. Tout va bien.
Non, mais ça va être comme Daredevil, comme bonne partie des séries de super-héros qui nous font « Oui, vous allez voir s'il va devenir Nightwing, mais au dernier épisode, parce que bon, on a quand même fait le beau costume de Robin, on va l'utiliser. »
Bah, je trouve ça bien narrativement d'exploiter vraiment la rupture de Robin et Batman et vraiment de faire durer ça avant de le faire prendre un nouveau costume. Enfin, ça peut être super intéressant de voir ça vraiment sur écran avec des acteurs. Enfin, c'est un truc très très passionnant. Et dans la série ou dans la web série Nightwing qui avait été faite il y a quelques années, ça avait déjà été un peu exploré et ça rendait super bien. Donc non, je suis content a priori, qu'ils vont prendre toute la saison pour explorer ça et mener à l'évolution progressive du personnage, je trouve.
Après, pour ceux qui n'auraient pas lu la news et qui nous écoutent, du coup, on a appris, si vous voulez pas être spoilé, c'est maintenant qu'il faut partir, que dans l'épisode 1 de Titans, donc Robin aurait quitté Batman, c'est ça? Il aurait la haine envers le
C'est
mot haine
ça.
a été évoqué envers Batman, et du coup, en fait, il quitte Gotham, il va à San Francisco où il vit un peu sa vie de son côté,
Il est toujours Robin.
et il est toujours Robin, ouais. Et
Et
on
inspecteur
explore
de
aussi un peu
police.
son passé, qu'il a fait amener à être Robin, avec notamment un flashback dans le cirque, etc. Voilà.
Ce qui me la première question que je me suis posée en lisant ce truc-là, c'est du coup, si tu fais que Dick et Bruce ne s'entendent vraiment pas, qu'il a même la rage envers son mentor, quel sera le rôle de Jason Todd dans cette dynamique, quoi?
Il va lui casser sa gueule.
Parce que tu
Il va
peux pas
lui mettre
avoir
encore
deux
plus la
Robins
rage.
méchants, ça c'est bizarre.
Bah, peut-être que Jason Todd sera le remplaçant de, je sais pas.
Oui, bah certainement, et à mon avis, il y aura peut-être
Donc ce
de
sera un
fortes
Jason, ou
tensions. Ou aussi
ce sera
peut-être
un
le
Jason Todd
lien
plus sympa, quoi.
entre Robin et Batman, quoi. Ils se font la gueule et c'est un peu l'entremetteur, on va dire. Peut-être.
Et du coup, ce sera un Jason Todd encore Robin qui est pas encore devenu un sale con comme on le disait tout
Attends,
à
attends, attends, attends.
l'heure.
Jason Todd, entremetteur. Dans une relation conflictuelle, ça sent mauvais. Ça sent super mauvais.
Ce sont que des
Ouais,
suppositions.
là on ne fait que théoriser. Mais ouais, ça
Non,
pourrait être pas
mais.
mal. Parce que je pense pas qu'on verra Batman, je pense pas qu'ils ont le droit, en fait.
Parce que
Ça, on peut prendre les
si.
paris,
Quoique
mais je pense pas non
aussi.
plus.
Si
Ouais.
t'as un Jason Todd qui est déjà Red Hood, etc., ça va un million de fois trop vite, à mon sens.
Oui, non, c'est
Concernant.
je pense pas qu'il sera Red Hood. Si lui est pas Nightwing, ça
Non,
serait
non,
bizarre,
non.
là.
Non, 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 faut qu'il y ait un petit passage pied de biche entre dents.
Non, mais je pense qu'il va juste être recruté Jason pendant la série.
Oui. Mocha, ouais.
Je me demande s'ils vont pas faire pour Dick, s'ils vont pas le mélanger un peu avec Tim Drake et le comment dire. Au début, il va être haineux envers Batman, mais au fur et à mesure, c'est lui qui va rechercher un successeur pour Robin, parce que il se rendra compte que Batman a besoin d'un Robin. Je me demande s'ils vont pas lui incorporer cet élément-là de Tim Drake, en fait. Et donc, du coup, ça serait lui qui rencontrerait Jason sur une mission, un truc comme ça, hein, puis qui les présenterait ou je sais pas trop quoi, mais ça serait différent de ce qu'on connaît avec Jason qui vole les roues de la Batmobile à Bruce, même si ça serait drôle à voir. Hein.
Ok. Ah oui, tu veux que Tim Drake et Jason Todd se fusionnent un peu, quoi.
Non, Tim Drake et Dick Grayson.
Ok.
Oh, tordu. Mais bon.
Ok.
Pauvre Tim Drake.
Bon,
Mais
après.
sinon, pour une bonne histoire de rupture entre Batman et Robin, il y a The Batman Adventures, The Lost Years en 4 chapitres, et c'est parfait. Ça te raconte toute l'évolution de Dick Grayson après la rupture avec Batman, son évolution, sa transformation en Nightwing. C'est du comics dérivé de la série animée, et pourtant c'est meilleur que le comics original.
Oula. Non mais c'est vrai que la dynamique ressemble pas mal à Batman Taz quoi, avec un
Bah oui,
Nightwing
complètement.
qui a un peu la haine par rapport à son mentor quoi. Parce que dans le comic c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment il était pas en colère quoi. Mais...
Ah si, moi j'ai lu quasiment tous les Nightwing c'était quelle année? C'était 80.
96 à 2011, à 2010.
Ouais, c'est ça. Et il y a un moment où on voit Nightwing. On voit en fait le moment où Bruce prend sous son aile Jason, et à ce moment-là, Nightwing, il déteste, c'est pas qu'il déteste, mais qu'il est vraiment en colère contre Bruce de voir qu'il l'a remplacé aussi vite. Donc cet aspect de leur relation était plus ou moins vu dans le comics quand même un peu.
Ouais, mais dans New Teen Titans, quand il devient Nightwing, c'est pas ça, quoi. Enfin,
Oui, ça c'est vrai.
Robin a pris son indépendance un peu tout seul, quoi. Il
La
s'éloigne de
puberté.
Batman. Oui, c'est ça. Au début, dans les comics, genre dans les années 70, tu le vois, il est plus avec Batman parce qu'il va à l'université, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il commence à s'éloigner. Et puis après, bah, avec les Titans. Et puis les nouveaux Titans, et quand il prend Nightwing, quoi, qui était un peu poussé, je pense, par le fait qu'il fallait un nouveau Flash quand Barry est mort. Quoique non, c'était encore avant. Oh putain, je me perds un peu dans mes comics, dans ma timeline, dans ma chronologie des comics. Mais voilà, quoi, Nightwing à la base est pas vraiment parti avec de la haine, et vu que la série veut se lier pas mal apparemment aux comics classiques des Nouveaux Titans, ben, je m'attendais pas à ça en tout cas.
Moi, je pense que ce sera vraiment plus proche de Batman TAS parce que dans l'article que j'ai lu pour faire la news, il parlait justement d'un Robin qui voulait fuir pour ne pas ressembler à Batman, quoi.
Ah ça
C'est
par contre
vraiment.
c'est cool parce que ça va reprendre toute la notion d'introspection de Nightwing et ça pourrait partir sur quelque chose de plutôt intéressant s'ils partent pas trop en dialogue mièvreux et
Bah, après
ennuyeux.
aussi à voir quel serait l'élément déclencheur, quoi, donc.
Ouais.
Après, justement, pour le côté dark de la série plus globalement, il y a beaucoup de gens qui, enfin apparemment il y aurait du sang et tout, des trucs de ouf. Et il y a beaucoup de gens
Pour adultes.
qui sont très heureux que ce soit violent et tout. Moi, je trouve que ça se prête pas trop aux Titans. D'ailleurs, les comics en ce moment, ils font un peu pareil et c'est ridicule. Que la violence et tout ça avec les jeunes Titans, je trouve que ça colle pas trop. Surtout avec des mecs comme Nightwing, qui sont plutôt droits comme personne quand même à la base.
Ouais, mais ils sont pas si jeunes que ça, donc.
Bah certains si. Raven, elle est hyper jeune dans le dans la
Après, dans
Ouais,
une
mais
psy.
Raven, qu'elle ait 13 ou 20 ans, Raven, elle peut bouffer des gens, c'est
Mais
pas
du
grave.
dans le synopsis, il y a quand même écrit que Dick, il est un jeune homme, donc faut voir quel âge il a en réalité. Parce que l'acteur, il a quoi, 30 ans?
Oui, bon, c'est clair.
Mais ils sont pas, c'est pas Dick qui vont pas nous dire qu'en fait il a 19 ans à la série.
Ouais, je pense qu'il aura 18-19 ans. Et du coup, enfin, j'aime pas trop l'idée de lier les Titans à la violence. Je pense qu'il y a d'autres équipes pour faire ça, les Outsiders par exemple. Mais par contre, le côté mature, ça me plaît vraiment. Ça sera quand même, je pense, un peu adolescent, parce que forcément, ce seront des jeunes et qu'ils ont des problèmes d'adolescence, sinon ça sera pas crédible. Mais foutre ça avec des thèmes matures, ils savent que c'est possible. Il y avait 13 Reasons Why qui faisait ça. C'est quand même une série adolescente, quoi, qui parle du lycée et tout, mais qui a des thèmes assez sérieux. Et ça marche bien comme série, donc je pense qu'ils savent qu'il y a un public pour ça aussi maintenant, et j'espère qu'ils vont prendre cette direction-là, des thèmes sérieux appliqués aux Titans, mais pas faire des trucs non plus ultra violents ou avec Robin hyper badass qui a lâché des punchlines de merde à 2 balles, quoi.
C'est ce qui est écrit dans l'article, non? Il y avait écrit que genre, il cassait des os, il y a des hommes qui prenaient feu, des insultes qui étaient balancées.
Il y avait des os brisés, du sang et de la mutilation.
Cool. Ouais, mais des
Ça
trucs
m'a encore
d'adolescents, quoi.
parlé de feu.
Et
Ah,
dans...
mais Brother Blood, c'est pas forcément les Titans qui sont violents,
Et dans
c'est le méchant qui est
l'article
très méchant.
anglais, on parlait même de F-bomb et S-bomb, donc fuck et shit, quoi.
C'est qu'on n'a pas le droit de dire ça dans le podcast.
Ah bon?
Bah, évidemment. Non, c'est pas vrai.
Ça y est, il n'y a plus rien.
Nous sommes sur Internet, nous
Oh
avons
là
le droit
là!
de dire ce qu'on veut. Bite, voilà.
C'est
Et
Sledgy qui l'a dit, c'est Sledgy qui va être viré.
Ouais, je
Donc,
vois.
on parlait d'Outsiders, on va poursuivre avec
Attends, juste
Young
encore un truc
Justice.
sur Titan. Il y avait aussi un aspect aussi, parce que le pilote s'intéressera aussi à Raven, qui ben, a des problèmes dans son lycée, puisque elle entend des voix, elle a un démon dans sa tête, et donc, du coup, elle se fait persécuter. Voilà.
Pardon?
Ok, j'avais pas lu ça, mais
Mais
j'étais pas
c'est une
prêt
blague.
à.
Non, c'est pas une blague.
En vrai, ça
Mais.
s'appelle Carrie la Vengeance, c'est pas
Ouais.
Titan ça.
En vrai, on va voir à la fin que Raven, en fait, elle va laisser des cassettes pour expliquer pourquoi elle s'est suicidée.
On va poursuivre avec Young Justice Outsiders, qui est encore repoussé pour 2019 cette fois. Est-ce que ça fait beaucoup? Enfin, c'est juste pour signaler. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de débattre à quel point Young Justice est incroyable. Et c'est juste chiant que ça soit encore repoussé. Et ça explique un peu plus le décalage de DC Universe qui du coup ne sera pas mis en ligne en août, mais ce sera une bêta qui sera mise en ligne qui sera accessible à partir de fin août. L'application sera réellement disponible en automne, octobre, pour pas dire de conneries, j'ai peur, mais c'est vers l'automne. Oui. Et donc proposera des services de streaming concernant des vieilles séries comme la Wonder Woman avec Linda Carter, les séries animées comme Batman Taz entre autres, Justice League Unlimited. La plateforme proposera également des comics en ligne, du merchandising. On a parlé de Justice League Unlimited en produit exclusif.
Un accès communautaire aussi.
Ah oui, un forum. Et je crois que c'est tout.
Mais seulement pour les Américains.
Alors, Clegane, tu disais que t'étais pas si enthousiaste que ça.
Ben, en fait, pour moi, leur annonce, parce qu'ils nous ont dit, oui, attention, demain, grosse annonce sur le DC Universe. Et au final, ben, l'annonce était des choses qu'on savait déjà ou qu'on avait devinées. Ils nous ont annoncé qu'elle avait une série Titans. Merci.
La plus grosse annonce, c'est le retard de Young Justice. Il n'y avait pas de quoi en faire.
c'est ça.
Vous ne verrez pas votre dessin animé.
Ouais, mais et par contre, plus... tu peux te taper Super Friends, et ça, c'est cool.
Oui, mais ouais. Tu pourras pas le faire parce que tu es en France et que le service, pour l'instant, ne sera pas dispo hors des États-Unis.
Tu iras sur des sites de téléchargement illégal.
Mais je ne fais pas ça, illégaux. Moi, monsieur.
Oula. Personne ne fait ça, voyons.
Bah, de toute façon, quand t'as le choix entre Netflix et DC Universe, bah, le choix est vite fait quand même.
Bah, tu vas sur DC Universe parce qu'au moins t'as Super Friends.
Je vais sur Netflix, il y a CW pour mon cas, tu vois.
Ouais.
Attends, bah, c'est pas sur DC Universe
hein. Bah non, je pense. Non, je pense
ça,
pas.
Ça parle
des droits différents.
Mm. Ah, ça relève, tu vois, ça te présente la qualité des séries du DC Universe déjà.
on se marre beaucoup.
Non, mais il y a des trucs intéressants là dedans. Bon, les comics, ça a l'air d'être très limité quand même pour l'instant. Les séries, enfin, genre, j'aimerais bien voir Batman Taz en HD, ce serait pas mal. Il y a tous les films animés, il y a vraiment plein de vieux trucs. Il y a même le Superman des Fleischer, je crois, pour te dire. Mais effectivement, c'est pas disponible ailleurs qu'aux États-Unis, donc merde. Et au final, tout ce qui est vraiment intéressant, qui est primordial, c'est les séries originales. Et puis bon, ben voilà, on sait tous comment se les procurer. De toute façon, on n'a pas d'occasion de se les procurer autrement en France, en attendant que Netflix achète les droits finalement au bout de quelques mois, quoi.
Mais franchement, j'arrive pas à comprendre ces décisions. Pourquoi ne pas faire un service disponible internationalement directement?
Mais t'as
c'est
vu
trop
le...
bizarre.
T'as vu le nombre d'années qu'ils ont pris pour faire Hulu international?
Non, pas du tout.
Bah, Hulu au début, enfin, tu pouvais regarder qu'aux États-Unis, mais pendant des années et des années, quoi. Ça fait pas très longtemps que je crois qu'il y a un Hulu international, quoi. Et même sur leur chaîne YouTube, ils refusent l'accès si t'es pas américain. Si vous regardez la chaîne YouTube de Saturday Night Live, toutes les vidéos sont interdites si tu les regardes depuis l'Europe, quoi.
Ouais, mais c'est fermé un marché, c'est bizarre.
Mais ouais, mais le droit, je pense à la propriété. National n'est pas le même partout. Par exemple, je crois qu'en France, pour Netflix, tu ne peux pas avoir du contenu récent parce qu'il faut que ce soit depuis plusieurs années disponible pour que Netflix puisse le diffuser sur sa plateforme.
Ça dépend de comment c'est négocié.
C'est ça. Et Warner, c'est les ayants droit. Donc, logiquement, même peut-être qu'il y aurait des négociations à faire, mais ça ne devrait pas être trop, trop compliqué. Et pour leur contenu original, bah, ça, ils n'auraient aucun problème pour le mettre directement comme Netflix. Donc, la décision est étrange.
Non, c'est typiquement américain, mais c'est toujours une mauvaise idée. Enfin, de se couper de tout un public comme ça, c'est con. Après, pour le DC Universe, là, l'excuse qu'ils ont, c'est que la plateforme elle vient de débuter. Ils font une bêta, ce qui était pas vraiment prévu à la base. Mais du coup, il faut qu'elle supporte déjà les États-Unis avant de pouvoir supporter le monde entier. Ajouter des VF, tout ça, ça va prendre du temps. C'est vrai que pour lancer le projet, à la limite, je veux bien que ça reste américain, mais j'aimerais bien une version européenne dans pas très très longtemps, quoi. Je pense dans un an, s'il n'y a pas de version européenne, là, ils pourront aller se faire foutre. Et nous, enfin, nous, on pourra aller se faire foutre surtout.
Ouais, parce qu'on aura pas surtout.
Ouais.
Tout le monde s'en branle, mais je me dis que quand même, est-ce que on pourrait avoir un moyen d'avoir accès par rapport à cette plateforme aux serials des années 40 concernant Shazam, Superman et Batman?
Que tu veux regarder les vieilles séries sur le DC Universe?
Ok, d'accord. En fait, je suis vraiment tout seul à m'intéresser à ces conneries.
Ouais, non, t'as raison, tout le monde s'en fout.
Non, j'en ai déjà regardé, mais enfin, j'arrête rapidement, quand même, tu vois.
Non, mais je pense qu'il devrait y avoir. C'est l'idée du service, de tout proposer, de les offres qui viennent d'ici. Donc, logiquement, ouais.
Parce qu'historiquement, c'est super intéressant. Et comme les dessins animés des Fleischer pour Superman, ça, c'était un petit peu associé dans le sens où si t'avais une production en simultané d'un serial avec un serial live, un dessin animé et une production radiophonique en même temps, et je trouve ça plutôt cool. Parce qu'à mon avis, tu l'as, la série des années 50 en couleur avec George Reeves.
Oui, bah ils l'ont, Warner, ils ont tout ça en stock. Hein.
Ah, t'imagines pas ce que ça leur coûterait de ne pas le mettre, en fait.
Oui. Et on n'a pas le catalogue complet, de toute façon, et ils pourraient toujours rajouter si jamais il n'y est pas au début, quoi. Après, je suis pas sûr qu'ils fassent un remake HD, quoi, du truc. Mais...
ça m'étonne aussi, quand même.
C'est marrant.
Ah, ils vont pas payer autant pour ça.
Le Batman des années 40, là, en HD, ça serait bien, non?
Avec des effets spéciaux complètement pétés. Clegane, ça va être ton heure, enfin tes 5 minutes. On va parler alors que la série Watchmen est off son casting entre guillemets de qualité, parce que ça, enfin, disons qu'on n'a pas de rôle précis, donc on va pas vraiment en parler, mais il y a de très bons acteurs qui ont été castés. Le projet Pennyworth possède déjà un tournage prévu pour cette année. Clegane, c'était pour toi.
Merci. Je pensais pas que tu le ferais vraiment, mais merci. Donc, bah, c'est, je trouve ça beau. Parce qu'on peut voir à côté que DC, ça fait 3 ans, ou 4 ans, qu'ils essayent de lancer un film Flash. Ils ont eu 2 réalisateurs. Le tournage n'est toujours pas commencé. Et à côté, ils annoncent une série Pennyworth, il y a 3 ou 4 mois, je sais plus. Le tournage est déjà cette année. C'est beau. On va pouvoir voir la jeunesse d'Alfred, et je pense que tout le monde attendait ça, donc, on peut dire merci à DC.
Pour ceux qui veulent approfondir le voyage, il y a le dernier tome de All-Star Batman qui vient de sortir chez Urban Comics. À ne surtout pas lire si vous aimez Batman.
Et surtout qu'apparemment, ils ont casté Lewis Tan dans le rôle de Pennyworth.
Du coup, Clegane, arrête de me faire regarder. Putain, ça serait tellement bien. D'ailleurs, j'ai découvert depuis sur Wikipédia que Lewis Tan joue dans la série Into the Badlands. Ce qui fait de lui tout de suite quelqu'un d'apte pour n'importe quoi. Voilà.
Surtout que Into the Badlands, c'est vraiment n'importe quoi.
Ah bon, c'est trop bien.
Et il joue aussi dans Iron Fist. Voilà, voilà.
Oui, bon, ça,
donc il fait n'importe quoi.
Il est cascadeur sur Fast and Furious. Waouh. Truc de ouf. Sur Tokyo Drift, évidemment, parce que...
Parce qu'on prend les meilleurs. T'as envie de parler de Pennyworth?
Ouais, non, je savais plus de quoi on parlait, en fait.
Personne n'a envie de parler de Pennyworth.
Mais on parlait de Pennyworth, en fait.
Je voulais parler de Lewis Tan, moi. Non, Pennyworth, depuis que Teen Titans Go, le film, a fait la blague d'un film Alfred, je pense que je suis content qu'ils aient réalisé le souhait de tout le monde et qu'ils fassent
ça. Je pense que DC a vu ça, ils se sont dit, attends.
C'est que c'est pas une mauvaise idée, en fait.
Non, non, c'est les mecs de Gotham, hein, c'est pas DC, les mecs de Gotham, ils se sont dit, là, ils tiennent quelque chose, faut qu'on le fasse avant eux.
Ah oui. Bah, tu sais, moi, tout ce que, les mecs qui font Gotham, tout ce qu'ils touchent, tu vois, c'est de l'or nanardesque, du coup, je regarderai avec beaucoup de plaisir.
On va terminer ce podcast sur une annonce plutôt qu'une news. Enfin, c'est quand même une news quand même. Mais pour signaler la présence de Urban Comics et de Frank Miller qui fera son retour à la Paris Comic Con 2018 aux côtés de Lee Garbett. Bah oui, c'est Lee Garbett. De Lee Garbett et Andy Kubert. Donc, la Paris Comic Con semble se relever. Certainement que ce sera bien meilleur que les éditions précédentes. On avait déjà ressenti un mieux la dernière édition, j'ai l'impression. Donc, ce serait peut-être pour une fois une raison de pouvoir avoir un contact avec Frank Miller plutôt qu'une heure d'apparition et c'est tout.
Ouais, c'est vrai que la première fois qu'il était apparu il y a quelques années, apparemment c'était pas très très fructueux quoi. Bon après moi la Paris Comic Con j'ai jamais foutu les pieds parce que voilà parce que j'ai pas d'argent. Et du coup c'est quand même bien de pouvoir attirer autant de monde comme ça en France, ça fait plaisir.
Voilà, donc à mon avis, c'est là-dessus qu'on va clore ce podcast. On remercie encore une fois Clegane
Oui, merci
pour
Clégane.
son arrivée précipitée. Le mec, il a été prévenu il y a 3 heures, mais tout va bien, c'est
Mais
toujours sur les
j'adore,
chapeaux de roue.
c'est ça que j'aime sur les podcasts d'ici Planète.
Ah, c'est instinctif,
Et on
tu
se retrouve
saisis ta
bientôt.
chance.
C'est ça.
Il a
On
un
se retrouve bientôt
téléphone
pour
rouge.
un podcast de 2 heures sur les Wistan.
Oh oui, s'il te
Ah, c'est prévu.
plaît.
Ochou
Ouais.
elle est pas prévenue, mais c'est prévu.
Ok, d'accord, bah c'est pas grave, je saisis ma chance. Et on peut dire à bientôt pour on peut dire à bientôt aux auditeurs pour un prochain podcast qui sera certainement un review spécial sur les événements chez DC, à savoir Flash War et Justice League, la Justice League de Scott Snyder. Salut!
Spoiler, c'est pas bien.
Salut.
Salut.